en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Alors nous allons voir ce qu'il en est du côté de la musique, en écoutant François-Bernard Mache, qu'il est inutile de présenter dans cette salle. Tout le monde connaît le compositeur. On oublie parfois à quel point François-Bernard Mache est aussi, et peut-être d'abord, un grand helléniste. Le mois dernier, nous étions à Rome dans les corridors des musées du Vatican et François-Bernard traduisait une inscription grecque qui se trouvait devant ses yeux, au point que je me demandais s'il ne s'était pas trompé d'académie, s'il n'aurait pas sa place aussi à l'académie des inscriptions. Donc parfois, sous le compositeur, perce le normalien agrégé des lettres, que François-Bernard Mache est aussi. Et donc aujourd'hui, c'est un peu une forme de synthèse, puisque cette passion littéraire qui anime François-Bernard Mache depuis toujours, le conduit à s'intéresser à Baudelaire, à nous faire entendre Tannhäuser et à nous parler de cette réception de Tannhäuser à Paris. Vous vous souvenez de la princesse de Metternich brisant son éventail et quittant sa loge devant la bronca qui accueillait Wagner. Nous resterons à nos places et nous écouterons François-Bernard Mache.
Merci. Et je viens d'entendre de très très brillants développements sur la temporalité inhérente à la peinture, selon Baudelaire. Donc ce que je vais dire n'est pas en contradiction, mais va faire passer le plan métaphorique vers un plan plus réel, car si la peinture est d'une certaine manière un art du temps, la musique l'est encore beaucoup plus. Alors j'ai intitulé cet exposé « Baudelaire et l'exception musicale ». Eh bien, cette exception musicale fait allusion à l'œuvre critique de Baudelaire d'abord. En effet, le seul texte qu'il ait consacré à un musicien est celui qu'il a intitulé « Richard Wagner et Tannhäuser à Paris ». Et cela représente une quarantaine de pages environ. C'est 5 fois moins que ce qu'il a publié à propos d'autres écrivains. Et c'est 10 fois moins que ses réflexions et ses critiques concernant des peintres. Seulement, l'importance historique de ces textes presque uniques dépasse beaucoup sa brièveté. Pour l'apprécier, je crois qu'il est nécessaire de comprendre un peu le contexte social. Le musicien, peut-être plus encore que le peintre, travaillant en fonction d'un public et à l'aide de collaborateurs eux-mêmes actifs. Lorsque Wagner revient à Paris en 1859, il espère effacer les rebuffades qu'il y avait subies à son premier séjour en 1837. C'était alors un jeune chef d'orchestre inconnu qui, après avoir à l'Opéra de Riga dirigé essentiellement des productions françaises pour satisfaire les goûts dominants et qui espérait bien se placer auprès des maîtres parisiens du genre. Scribe, Halévy, Meyerbeer, Rossini, Auber. Il voulait se faire un nom dans la capitale culturelle de l'Europe et y faire reconnaître l'opéra allemand dont Beethoven et Weber n'avaient donné que les prémices. Mais le nationalisme n'était pas encore pour lui une priorité. Et même une dizaine d'années plus tard, en juillet 1849, l'année où il publiait « L'art et la révolution », il pouvait encore écrire à Liszt, dans un pressant appel au secours, « Sauve-moi pour mon art, peu m'importe la patrie ». C'est plutôt pour fuir les créanciers qu'en 1837, il avait précipitamment quitté Riga puis Londres. Et en cela, il adoptait une conduite dont, bien plus tard, Baudelaire, comme Balzac et comme beaucoup d'autres artistes, devait être coutumier. Deux mondes coexistent à Paris, sous Louis-Philippe. Il y a une audacieuse effervescence artistique dans un milieu romantique très restreint, où les noms de Beethoven et de Weber commencent seulement à circuler, comme ceux de Shakespeare, Goethe et Schiller. Mais ailleurs, l'effervescence affairiste est encore bien plus puissante et plus répandue dans le public des abonnés. Pour eux, l'opéra est d'abord un territoire conquis sur les aristocrates, où on se montre, on se visite et on repère les plus jolies petites danseuses. Car les moments essentiels d'une représentation sont ceux du grand air de la prima donna et du grand ballet. La musique n'est souvent qu'un fond discret au service du livret, et cette discrétion est appréciée car elle ne gêne pas trop les conversations. Pendant les 20 années où Wagner et Baudelaire ont mûri leur génie, un élément ne doit pas être perdu de vue. On ne joue presque que de la musique contemporaine. Et seul l'opéra comique ou le vaudeville rassemble des auditoires importants. La presse qui informe les amateurs leur indique en priorité les chanteurs des premiers rôles et les librettistes. Pour une création, il arrive assez souvent que le nom du compositeur n'apparaisse même pas, à moins qu'il n'ait déjà connu quelques succès retentissants. Il n'y a pas de metteur en scène, peu de répétitions, car on multiplie les créations, et les directeurs d'opéra ont une préférence marquée à la fois pour les exploits du bel canto et pour des ritournelles faciles à fredonner à la sortie du spectacle. Wagner, qui a vu de près la superficialité de ces mœurs musicales parisiennes, mais qui admire Berlioz, ne désespère pas d'en hausser le niveau et peut-être de s'imposer comme écrivain et comme penseur. Il rédige en novembre 1840, dans le style des Kreisleriana de Hoffmann, une nouvelle retentissante sous forme d'autobiographie fantasmée pour la revue de Schlesinger. Alors, je prononce à la française, c'est un allemand, Schlesinger, mais on devait à l'époque, je pense, dire Schlesinger. Elle est intitulée, cette nouvelle, « Une visite à Beethoven », épisode de la vie d'un musicien allemand. Et on y lit, par exemple, j'allais proposer à un éditeur plusieurs sonates pour le piano que j'avais composées sur le modèle de celles de Beethoven. Le marchand me démontra en peu de mots que je n'étais qu'un fou avec mes sonates et il me donna le conseil, si je voulais avec le temps gagner quelques écus avec ma musique, de me faire d'abord une petite réputation avec des galops et des pots pourris. Je frémis d'indignation, mais le désir passionné qui m'obsédait fit taire tous mes scrupules et je me mis à composer des galops et des pots pourris. Et de fait, pendant 10 ans, le nom encore presque inconnu de Wagner n'évoque pour de rares lecteurs que cette nouvelle où Beethoven livre à son visiteur l'essentiel de la révolution esthétique méditée par Wagner. Cependant, Baudelaire, en 1840, n'a pas encore pris rang parmi les poètes. Après avoir été renvoyé de Louis le Grand, il a été reçu bachelier, et à son retour de La Réunion, où son beau-père l'a expédié pour le détacher des prostituées du quartier latin, il s'emploie à dilapider rapidement l'héritage de son père, en menant la grande vie en compagnie de Gautier, Balzac, Asselineau, Nerval et d'autres jeunes écrivains romantiques. Le club des Hachichins les réunit parfois dans l'île Saint-Louis. Un accès de fièvre révolutionnaire d'une ampleur déjà européenne se déclenche en 1848. Baudelaire en est atteint, comme de son côté Wagner, mais lui, c'est surtout par détestation de son beau-père, le général Opic, le commandant de l'école polytechnique. Il participe aux émeutes qui vont chasser Louis-Philippe de son trône, mais bientôt, le dégoût de la politique le laisse plus préoccupé de la poésie et de l'exaltation amoureuse. On a peu d'indications sur les contacts qu'il a pu avoir avec des musiciens au cours des premières années du Second Empire. Et lui-même, dans la lettre que longtemps après il enverra à Wagner, avoue que toute son éducation se borne à avoir entendu, avec grand plaisir, il est vrai, quelques beaux morceaux de Weber et de Beethoven. Mais quelques documents laissent entrevoir quelques contacts qui ont pu orienter la sensibilité musicale du jeune Baudelaire. Un autre ancien élève de Louis le Grand, son aîné de 4 ans, s'appelait Charles Barbara. Et c'est lui, d'ailleurs, qui a attiré son attention dès 1847 sur l'œuvre d'Edgar Poe. C'est lui aussi qui publie dans la Revue de Paris, en janvier 1855, le premier roman policier français, « L'assassinat du Pont Rouge », influencé par « The Murders in the Rue Morgue », le roman d'Edgar Poe qu'il a traduit. Or, dans ce roman, et c'est là que ça devient intéressant pour nous, il insère un sonnet, encore inédit, de Baudelaire. Un des personnages, un poète, le cite de mémoire au cours d'une soirée privée sans mentionner le nom de son auteur. Pour que Barbara ait pu citer un sonnet encore inédit où Baudelaire livre son plus intime secret amoureux, il faut sans doute que leur proximité ait été plus qu'occasionnelle. Car le sonnet est adressé à la muse et la madone, c'est-à-dire Madame Sabatier, dont Baudelaire est secrètement amoureux depuis longtemps, et il lui a envoyé des lettres et des poèmes, mais toujours sous l'anonymat. Et elle avait elle-même reçu ce poème diffusé clandestinement, en quelque sorte, par Barbara. Elle l'avait reçu en 1855, puisqu'elle était abonnée, elle aussi, à la Revue de Paris. Donc elle n'a pu que reconnaître le poème qu'elle avait reçu anonymement. Une autre personnalité appartient au même cercle, c'est Champfleury. Bien que Baudelaire soit assez réticent à partager son enthousiasme pour le réalisme de Courbet, dont il se fait le défenseur, il ne peut manquer d'avoir lu un texte publié l'année précédente. Champfleury a en effet donné en deux livraisons à la Revue de Paris vers 1800, non, l'année précédente, c'est-à-dire 1854. Il a publié en deux livraisons une nouvelle intitulée « Le Quatuor de l'île Saint-Louis » qui brode sur un quatuor très réel, organisé vers 1850 par Barbara, premier violon, et dont le violoncelliste était Champfleury. Donc c'est à Barbara que va être dédié l'article de Champfleury sur Wagner, qui paraît le 27 janvier 1860. Comme c'est Champfleury à qui Wagner va demander de transmettre une réponse à la lettre de l'inconnu, qui est pour lui Baudelaire, le 17 février 1860. On voit donc que, bien que les renseignements soient lacunaires, le poète était proche de plusieurs amateurs de musique et que non seulement il a pu partager avec eux certaines idées, recueillir certains renseignements et sans doute aussi assister à certains concerts. Il a évidemment lu, 3 mois après lui avoir dédié les Fleurs du Mal, ce que Gautier disait de Tannhäuser dans le Moniteur universel. Et l'on peut sans doute adjoindre à ces quelques noms celui de Balzac. L'admiration de Baudelaire pour son aîné est bien connue. Il est donc assez probable que Baudelaire avait lu Gambara, publié en 1837. Balzac s'était documenté auprès de Strunz, un collaborateur bavarois des revues musicales de Schlesinger. Contrairement à Baudelaire, il avait quelques connaissances musicales. Et il allait chaque semaine à l'opéra où il bénéficiait de la loge des Guidoboni Visconti. Et son Gambara est un Italien inventeur d'un instrument inédit, le panharmonicon, une des innombrables inventions instrumentales qui ont proliféré depuis le début du siècle. C'est de plus un génie méconnu, typiquement romantique, dont certaines idées ont pu être remarquées par Baudelaire, puisqu'on lit par exemple « Selon moi, la nature du son est identique à celle de la lumière. » Le son est la lumière sous une autre forme. En musique, les instruments font office des couleurs qu'emploie le peintre. Où n'irions-nous pas si nous trouvions les lois physiques en vertu desquelles nous rassemblons une certaine substance éthérée répandue dans l'air et qui nous donne la musique aussi bien que la lumière, les phénomènes de la végétation aussi bien que ceux de la zoologie. Ces lois nouvelles armeraient le compositeur de pouvoirs nouveaux en lui offrant des instruments supérieurs aux instruments actuels, et peut-être une harmonie grandiose comparée à celle qui régit aujourd'hui la musique, ce qui étant la science étant l'art. Donc après ces déclarations magnifiques, le narrateur est témoin de la musique composée réellement par Gambara, et voici ce qu'il découvre. Il n'y avait pas l'apparence d'une idée poétique ou musicale dans l'étourdissante cacophonie qui frappait les oreilles. Les principes de l'harmonie, les premières règles de la composition étaient totalement étrangères à cette informe création. L'exécution de cette musique insensée exigeait une habileté merveilleuse pour se rompre à un pareil doigté. Voilà une musique de l'avenir, formule évidemment qui est le slogan wagnérien par excellence, une musique de l'avenir qui repose sur une autre utopie que celle de Wagner, mais qui suscite déjà des commentaires étrangement semblables à ceux que Tannhäuser va provoquer et que je vais bientôt rappeler. À une date où Baudelaire est encore collégien, Balzac entrevoit un monde musical où, comme dans le futur sonnet baudelairien, tout se correspond. Quittons maintenant le très petit nombre des mélomanes disposés à comprendre Baudelaire lorsqu'il va prendre la défense de Wagner pour ouvrir quelques aperçus sur la grande masse de ceux qui, au contraire, vont tout faire pour s'en débarrasser dès les trois concerts du début de janvier 1860 à la salle Ventadour, alias Théâtre italien, où Wagner a espéré les séduire. Au moment où Wagner retrouve Paris, en 1859, voici la salle Ventadour, elle existe toujours, c'est les services sociaux de la Banque de France. À ce moment, la revue et gazette musicale de Paris, où règne le musicologue belge Fétis, publie le prototype de ce qu'on appelle aujourd'hui un tube. C'est la prière d'une vierge de mademoiselle Tekla Bondarzewska-Baranowska, une jeune polonaise presque inculte, qui n'aura plus jamais le même succès au cours des deux années qui lui restent à vivre, mais dont le tube bat un premier record mondial, avec 80 éditions et plus d'un million d'exemplaires vendus en Europe, en Amérique et en Australie. On peut croire que le public qui fait un tel accueil à mademoiselle Tekla Baranowska, malgré son nom, mais grâce à sa musique, ce public est tout à fait étranger à Baudelaire. Voici, pour en juger, à quoi ressemble la prière d'une vierge, partition, mais aussi quelques aspects du son correspondant, joué au piano comme à l'époque. Reprise. Bien, etc. Alors, évidemment, on se dit, bon, le public est le public développé mentalement ne peut pas mettre sur le même plan cette chansonnette kitsch et les grands compositeurs romantiques. Effectivement, il ne les met pas sur le même plan, mais les grands compositeurs romantiques sont mis beaucoup plus bas. Voici quelques échantillons de ce qu'on peut découvrir dans la presse spécialisée de cette époque. J'ai choisi Scudo comme le plus acharné. Scudo est lui-même compositeur à l'occasion. Voici par exemple une partition de Scudo, Le Sommeil. Nous dirons fort peu de choses des compositions de M. Liszt. Sa musique est à peu près inexécutable pour tout autre que lui. Ce sont des improvisations sans ordre et sans idée, aussi prétentieuses que bizarres. Ça, c'était en 1852. Autre jugement. Non seulement M. Berlioz n'a pas d'idée mélodique, mais lorsqu'une idée lui arrive, il ne sait pas la traiter car il ne sait pas écrire. M. Verdi est un musicien de décadence. Il en a tous les défauts, la violence du style, le décousu des idées, la crudité des couleurs, l'impropriété du langage. Ça, c'est dans la Revue des Deux Mondes du 15 décembre 1856. Et en guise de synthèse de tous ces jugements, qui ont eu une longue postérité, voici l'oracle suprême de Paul Scudo, toujours lui. Monsieur Gounod a le malheur d'admirer certaines parties des derniers quatuors de Beethoven. c'est la source troublée d'où sont sortis tous les mauvais musiciens de l'Allemagne moderne. Les Liszt, les Wagner, les Schumann, sans omettre Mendelssohn pour certaines parties de son style. La Revue des Deux Mondes, 15 mars 1862. Dans ce contexte, on comprend quelle difficulté a eu un Berlioz pour faire entendre un autre son. Et voici un extrait du recueil « Les grotesques de la musique » paru en 1859, au moment où Wagner revient à Paris. Parmi ses confrères critiques, seul Scudo a condamné cet article. Et vous allez voir tout de suite pourquoi il s'y était reconnu. Un de nos confrères du feuilleton, je vais vous montrer le titre, le texte, un de nos confrères du feuilleton avait pour principe qu'un critique, jaloux de conserver son impartialité, ne doit jamais voir les pièces dont il est chargé de faire la critique. Afin, disait-il, de se soustraire à l'influence du jeu des acteurs. Mais ce qui donnait beaucoup d'originalité à la doctrine de notre confrère, c'est qu'il ne lisait pas non plus les ouvrages dont il avait à parler. D'abord parce qu'en général, les pièces nouvelles ne sont pas imprimées. Et puis encore parce qu'il ne voulait pas subir l'influence du bon ou du mauvais style de l'auteur. Cette incorruptibilité parfaite l'obligeait à composer des récits incroyables, des pièces qu'il n'avait ni lues ni vues, et lui faisait émettre de très piquantes opinions sur la musique qu'il n'avait pas entendue. Ça, c'est Berlioz dans Les grotesques de la musique en 1859. Il convient de rappeler que peu avant l'arrivée de Wagner, deux événements sont extrêmement révélateurs. Le procureur Pinard attaque Madame Bovary en février. En février 1857, mais Flaubert est acquitté. Baudelaire publie 4 mois plus tard le recueil des Fleurs du Mal dédié à Théophile Gautier. Et un lecteur du Figaro, Gustave Bourdin, écrit dès le 5 juillet un article où il attaque. Il y a des moments où on doute de l'état mental de M. Baudelaire. Et il y en a où on n'en doute plus. C'est la plupart du temps la répétition monotone et préméditée des mêmes mots, des mêmes pensées. L'odieux, il coudoie l'ignoble. Le repoussant s'y allie à l'infect. Jamais on ne vit mordre et même mâcher autant de saints en si peu de pages. Jamais on assista à une semblable revue de démons, de fœtus, de diables, de chloroses, de chats et de vermines. Ce livre est un hôpital ouvert à toutes les démences de l'esprit, à toutes les putridités du cœur. Si encore c'était pour les guérir, mais elles sont incurables. Le procureur Pinard, qui avait dû acquitter Flaubert le 7 février, s'empresse de trouver un autre écrivain immoral, Baudelaire, qui, lui, est condamné le 20 août 1857 à une censure partielle et à une amende pour lui très lourde de 300 francs. L'année suivante, Pinard est décoré de la Légion d'honneur. Peu après, de retour de Wiesbaden, où il a assisté à une représentation de Tannhäuser, Théophile Gautier écrit dans le Moniteur universel du 29 septembre 1857 un article où il signale l'intérêt de cette œuvre, dont le romantisme médiéval et le récitatif perpétuel l'ont frappé, tandis que la marche des pèlerins l'enthousiasmait. Il conclut en disant de Wagner « Est-il destiné à détrôner les grands maîtres de l'art ?» Nous ne le croyons pas, mais nous voudrions que Tannhäuser fût exécuté à Paris au Grand Opéra. La partition mérite cette épreuve solennelle. Et à ce moment, Baudelaire, qui écrit un paragraphe élogieux sur l'écrivain musicien Charles Barbara, dans son article sur Madame Bovary, ne manque pas d'être alerté par son ami sur l'importance des enjeux musicaux. Et la musique prend assez d'importance dans sa sensibilité pour qu'il l'évoque dans le poème qui porte ce titre, comme le seul antidote du spleen. Mais c'est pour l'instant le spleen qui triomphe. 2 ans plus tard, lorsque Wagner va affronter le public et la critique parisienne, Baudelaire a quitté Jeanne Duval et la rue Beautreilly pour emménager dans une médiocre chambre garnie de l'hôtel de Dieppe au 22 rue d'Amsterdam, il existe toujours, Il lutte contre l'impécuniosité, les vertiges, les nausées, la dépression et les huissiers. Il vient d'achever Les paradis artificiels, dont l'édition complète va être mise en vente au milieu de l'année suivante. Revenant à Paris en 1859, Wagner a obtenu la salle Ventadour pour y faire entendre une anthologie monographique programmée les 25 janvier, 1er et 8 février 1860. Wagner dirige entièrement par chœur l'orchestre et les 150 mauvais choristes amateurs, et en première partie l'ouverture du vaisseau fantôme et quatre extraits de Tannhäuser. Et le dernier de ces extraits est l'ouverture, judicieusement placée à la fin, juste avant l'entracte. Puis le prélude de Tristan et trois extraits de Lohengrin. Critique du Moniteur, il écrit « La moitié des choristes chantaient faux, l'autre ne chantait pas juste ». Quant à Scudo, furieux que Wagner, pas plus qu'aux autres critiques, ne lui ait envoyé d'invitation, il écrit « L'ouverture du vaisseau fantôme, c'est le chaos peignant le chaos, d'où il ne surgit que quelques bouffées d'accords exhalées par les trompettes dont l'auteur fait grand abus dans toutes ses compositions. On ne perçoit plus qu'une confusion de sonorités étranges, d'accords péniblement cherchés, qu'un gaspillage de couleurs sans un dessin qui les supporte et oriente l'oreille éperdue. Et l'on assiste à un immense effort de la volonté dépourvue de grâce et qui n'aboutit qu'au néant. » Alors Scudo se sent obligé de redresser les erreurs et les insuffisances de Wagner en ces termes. Il y a un point au-delà duquel la critique peut dire à l'inspiration individuelle de l'artiste, comme le Dieu de la Bible l'a dit à la mer, « Nec plus ultra », cette limite fatale que l'artiste ne peut dépasser sans tomber comme Icare dans le vide de l'espace, ce sont les lois mêmes de l'esprit humain. C'est la forme dans laquelle s'incarne nécessairement le génie. Si un être supérieur à la nature humaine voulait communiquer avec de simples mortels, il serait forcé de se soumettre aux limites de notre intelligence, car Dieu lui-même ne nous est connu que par le monde qu'il a créé et qui nous révèle sa toute-puissance. Voilà qui a dû satisfaire le procureur Pinard, défenseur de la morale et de la religion. Comme on pouvait s'y attendre, le prélude de Tristan, qui a rendu perplexe Berlioz lui-même, provoque ses jugements. Si je n'avais pas entendu trois fois ce monstrueux entassement de sons discordants, je ne le croirais pas possible. On assure que l'auteur fait le plus grand cas de cette composition, qui contiendrait la révélation de sa seconde manière. Je ne pense pas que M. Wagner, malgré son audace, puisse jamais arriver à une troisième transformation de ce beau style. M. Wagner a été privé par la nature des deux qualités les plus nécessaires à un compositeur dramatique, l'imagination et le sentiment. Le premier à protester contre cette avalanche d'attaques prétentieuses a peut-être été Champfleury. Le surlendemain du premier concert, il écrit dans une plaquette dédiée au romancier Barbara « Absence de mélodie, disaient les critiques. » Chaque fragment de chacun des opéras de Wagner n'est qu'une vaste mélodie, semblable au spectacle de la mer. Un autre proche de Baudelaire, Asselineau, était absent pour une raison qui peut aujourd'hui surprendre, la politique. Wagner était un proscrit, un exilé, tout comme Victor Hugo. Baudelaire en informe son éditeur le 16 février en lui écrivant « Asselineau, qui sait la musique, n'est pas allé au concert de Wagner parce que c'était trop loin de chez lui et parce qu'on lui a dit que Wagner était un républicain. Je lui ai répondu que j'y serais allé quand même si tu étais un royaliste, que cela n'empêchait ni la sottise ni le génie. Je n'ose plus parler de Wagner, on s'est trop foutu de moi. Ça a été, cette musique, une des grandes jouissances de ma vie. » Il y a bien 15 ans que je n'ai senti pareil enlèvement. Et le lendemain, c'est à Wagner que Baudelaire décide d'écrire la superbe lettre d'admiration où il évoque les sentiments que sa musique lui a inspirés. Les grands aspects de la nature, la majesté d'une vie plus large que la nôtre, la sensation de monter dans l'air ou de rouler dans la mer, les visions colorées avec une gradation du rouge jusqu'à l'incandescence de la fournaise, jusqu'à une dernière fusée qui vient tracer un sillon plus blanc sur le blanc qui lui sert de fond. Il conclut en écrivant « Je vous remercie. Vous m'avez rappelé à moi-même et aux grands dans de mauvaises heures. Wagner charge Champfleury de transmettre à Baudelaire un remerciement, et dans son autobiographie de 1880, il écrira « Une connaissance plus intéressante encore fut celle du poète Baudelaire. Il se présenta à moi dans une lettre où il me disait les sensations que lui avait fait éprouver ma musique, à lui qui ne croyait posséder que le sens des couleurs et non celui des sons. Le ton singulièrement fantastique et hardi de ses épanchements me fit deviner en Baudelaire un esprit extraordinaire, qui poursuivait avec une fougueuse énergie et jusque dans leurs dernières conséquences les impressions qu'il avait reçues de ma musique. À sa signature, il n'ajouta pas son adresse afin, disait-il, de ne pas m'induire à croire qu'il désirait quelque chose de moi. Bien entendu, je sus le découvrir quand même, et il ne tarda pas à se joindre au cercle de connaissances que je réunissais chez moi le mercredi. À son éditeur Poulet Malassi, un familier qu'il surnomme Coco Malperché, il confie « Si vous aviez été à Paris ces jours derniers, vous auriez entendu les ouvrages sublimes de Wagner. Ça a été un événement dans mon cerveau. » L'opération des trois concerts Wagner au Théâtre Italien n'a pas été un échec aussi complet que le voulait la majorité des critiques. Wagner était un habile manœuvrier. Il s'était acquis l'appui de la princesse de Metternich, la brillante jeune femme de l'ambassadeur d'Autriche, dont l'influence à la cour impériale a su obtenir à l'opéra la programmation de Tannhäuser. Peut-être faut-il alors se souvenir que l'Autriche est justement la grande rivale de la Prusse et que ce sont les Prussiens qui étaient intervenus sans ménagement 10 ans plus tôt en Saxe, poussant Wagner à l'exil. Wagner comprend que pour beaucoup à Paris, la musique compte moins que la qualité littéraire et dramatique du livret, et il s'emploie à obtenir une traduction française de ses écrits théoriques et de ses principaux livres. En septembre 1860, il écrit une longue lettre à Frédéric Villot, qui est une sorte de manifeste en préface à la traduction française de ses Operndichtungen, et en décembre, il adresse à Baudelaire les 4 poèmes d'opéra publiés chez Bourdilla. La situation de Baudelaire ne s'est pas améliorée depuis les 3 concerts Wagner. La sottise malveillante est même parfois décuplée par le nationalisme. Exemple, ce qu'écrit Paul Smith dans la Revue et Gazette musicale de Paris le 17 mars 1861, quelques jours après la représentation de Tannhäuser. Notre profession de foi sera simple et bien franche. Respect aux croyances et même aux superstitions étrangères, tant qu'elle ne cherche pas à s'imposer chez nous. La France ne cessera jamais d'avoir un autel pour les dieux inconnus. Mais quand on se présente pour y réclamer une place, elle a le droit d'examiner à son point de vue si l'on mérite de l'obtenir. Les libertés gallicanes ne sont un vain mot ni dans l'Église, ni dans l'art. Et il ajoute, le plus grand tort de Richard Wagner, c'est à nos yeux d'ignorer ce qui peut plaire ou déplaire à un public français. Les critiques les plus élogieuses vont à des valeurs plus consensuelles. Voici un aperçu de ce qui se joue à Paris la même semaine que Tannhäuser était annoncé dans le Journal des débats. À l'Opéra Comique, 2 œuvres d'Auber. Une reprise, le Domino Noir, et l'autre en création, la Circassienne, dont vous avez la partition sous les yeux. Celle-ci est commentée en ces termes par Wagner, un pot-pourri d'une rare puérilité dont on a peine à croire qu'il provient de son auteur grisonnant. En effet, Auber était octogénaire à l'époque. En alternance, 2 reprises. Une de Ferdinand Poise, Le jardinier galant, c'est un titre emprunté à un tableau de Watteau, mais c'est un arrangement d'une chanson du milieu du XVIIIe siècle qui était une chanson du chansonnier Collet contre la Pompadour. Voici l'arrangement qu'en a fait Poise. Thank you. Bon, ça suffira comme... Alors, c'est intéressant parce qu'on ne parlait pas encore de musique baroque, hein, c'était un siècle avant. Donc, l'arrière toute historique du 19e siècle fonctionnait en musique aussi, déjà à cette époque. Et puis, l'autre reprise est celle de Donizetti, la fille du régiment, qui était encore récemment à l'affiche à Paris. Et au Théâtre Lyrique, on joue Madame Grégoire du chansonnier Béranger. Et on joue les deux caddies, opéra bouffe en un acte de Monsieur Imbert, sur lequel je n'ai pas pu trouver de renseignements. Et enfin, au bouffe parisien, le grand nom du Second Empire, la chanson de Fortunio, opéra comique d'Offenbach, création d'après le chandelier de Musset. Alors, voici le début de cette jolie chanson. Donc c'est charmant et le public en est persuadé, mais n'est pas prêt du tout à retrouver un autre charme chez Wagner. L'article de Baudelaire paru en mars, le 1er avril, mais écrit en mars, est paru dans la Revue européenne et il a dû travailler pendant 3 jours enfermé dans l'imprimerie Pankook au sortir d'une grave dépression, sur laquelle il s'exprime ainsi dans une lettre à son éditeur. « Depuis assez longtemps, je suis au bord du suicide. Je ne suis, comme vous savez, ni pleurnicheur, ni menteur. Depuis 2 mois, surtout, je suis tombé dans une atonie et une désespérance alarmante. Je me suis senti attaqué d'une espèce de maladie à la Gérard, à savoir la peur de ne plus pouvoir penser ni écrire une ligne. Depuis 4 ou 5 jours seulement, je suis parvenu à vérifier que je n'étais pas mort de ce côté-là. » Nerval s'était suicidé, en effet, 6 ans plus tôt. Le grand article de Baudelaire, je ne peux évidemment pas en citer suffisamment d'extraits significatifs, il loue la conception du spectacle total, réincarnant en quelque sorte les pouvoirs perdus de la tragédie grecque. Mais il salue surtout en Wagner le musicien novateur qui ouvre à son imaginaire un immense espace. C'est toujours d'ailleurs l'immensité et l'espace qui reviennent dans ses commentaires. Dans la profusion des idées, j'extrais quelques passages au risque de transformer en fusée, comme dirait Baudelaire, ce que lui a savamment développé. Et en fond, une musique que vous reconnaîtrez. Ce qui serait vraiment surprenant, c'est que le son ne pût pas suggérer la couleur, que les couleurs ne puissent pas donner l'idée d'une mélodie, et que le son et la couleur fussent impropres à traduire des idées, les choses s'étant toujours exprimées par une analogie réciproque depuis le jour où Dieu a proféré le monde comme une complexe et indivisible totalité. Je me souviens que dès les premières mesures, je subis une de ces impressions heureuses que presque tous les hommes imaginatifs ont connues par le rêve, dans le sommeil. Je me sentis délivré des liens de la pesanteur et je retrouvais par le souvenir l'extraordinaire volupté qui circule dans les lieux hauts. Ensuite, je me peignis involontairement l'état délicieux d'un homme en proie à une grande rêverie dans une solitude absolue, mais une solitude avec un immense horizon et une large lumière diffuse, l'immensité sans autre décor qu'elle-même. Bientôt, j'éprouvai la sensation d'une lumière plus vive, d'une intensité de lumière croissant avec une telle rapidité que les nuances fournies par le dictionnaire ne suffiraient pas à exprimer ce surcroît toujours renaissant d'ardeur et de blancheur. Alors, je conçus pleinement l'idée d'une âme se mouvant dans un milieu lumineux, d'une extase faite de volupté et de connaissance, et planant au-dessus et bien loin du monde naturel. Il semble parfois, en écoutant cette musique ardente et despotique, qu'on retrouve peinte sur le fond des ténèbres, déchirée par la rêverie, les vertigineuses conceptions de l'opium. Pour Baudelaire, la révélation de Wagner, comme anciennement celle de Poe, n'a fait que confirmer, expliciter et manifester ce qu'il exprimait déjà dans ses poèmes et surtout dans les paradis artificiels. C'est là que la pensée profonde du poète se révèle le mieux. Peu avant la rencontre avec Wagner, je me permets de détacher encore ici quelques fusées. Il y en a que vous pouvez, j'espère, lire sur l'écran. Et les autres que je vais rapidement vous lire. Les sons se revêtent de couleurs, et les couleurs contiennent une musique. Non, ce n'est pas les... Je lis d'autres fusées. Cela, dira-t-on, n'a rien que de fort naturel, et tout cerveau poétique, dans son état sain et normal, conçoit facilement ces analogies. Mais j'ai déjà averti le lecteur qu'il n'y avait rien de positivement surnaturel dans l'ivresse du haschich. Seulement, ces analogies revêtent alors une vivacité inaccoutumée. Elles pénètrent, elles envahissent, elles accablent l'esprit de leur caractère despotique. Les notes musicales deviennent des nombres, et si votre esprit est doué de quelque aptitude mathématique, la mélodie, l'harmonie écoutée, tout en gardant son caractère voluptueux et sensuel, se transforme en une vaste opération arithmétique où les nombres engendrent les nombres et dont vous suivez les phases et la génération avec une facilité inexplicable et une agilité égale à celle de l'exécutant. La musique vous parle de vous-même et vous raconte le poème de votre vie. Elle s'incorpore à vous et vous vous fondez en elle. Elle parle de votre passion, non pas d'une manière vague et indéfinie, comme elle fait dans vos soirées nonchalantes un jour d'opéra, mais d'une manière circonstanciée, positive. Chaque mouvement du rythme marquant un mouvement connu de votre âme, chaque note se transformant en mots et le poème entier entrant dans votre cerveau comme un dictionnaire doué de vie. L'œuvre la plus complète du poète devrait être celle qui, dans son dernier achèvement, serait une parfaite musique. Et il dit aussi, le mythe est un arbre qui croît partout, en tout climat, sous tout soleil, spontanément et sans bouture. Donc là-dedans apparaît l'idée qui m'est chère aussi, que la musique dépend de certaines données spontanées et qui sont inhérentes à la nature humaine et non pas dépendantes d'une histoire comme le 19e siècle et encore le 20e l'ont cru. Je ferme cette parenthèse. Baudelaire a lui-même associé métaphoriquement la poésie à la musique, au moins autant qu'à la peinture, comme le voulait Horace avec son Ut pictura poesis. Mais les artistes de la Renaissance qui ont repris ce slogan. Et l'élément qui est secrètement essentiel à la musique quand il sait renforcer ses pouvoirs, c'est le silence. À propos des arts visuels qui dominent largement chez Baudelaire, remarquer leur silence ne se comprend que par référence à la musique. Il suffit de lire quelques lignes, quelques vers pour comprendre ce paradoxe. Par exemple, dans la chambre double numéro 5 des poèmes en prose, à quel démon bienveillant dois-je d'être ainsi entouré de mystère, de silence, de paix et de parfum? Le temps a disparu, c'est l'éternité qui règne, une éternité de délices. » dans Le Fou et la Vénus. L'extase universelle des choses ne s'exprime par aucun bruit. Les eaux elles-mêmes sont comme endormies. Bien différentes des fêtes humaines, c'est ici une orgie silencieuse. Voilà pour les poèmes en prose. Et pour les vers, d'une part, quelques-uns semblent confirmer que la musique est bien une exception personnelle chez Baudelaire lorsqu'il écrit dans La Chevelure « Comme d'autres esprits voguent sur la musique, le mien, ô mon amour, nage sur ton parfum. » Mais beaucoup d'autres vers relativisent cette exception. Delacroix, le peintre favori de Baudelaire, était un grand ami de Chopin. Et la manière dont Baudelaire traduit en sonorité sa peinture et ses sujets me fait penser à ce que Malraux a surnommé « les voix du silence ».
De la croix, lac du sang hanté des mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, où, sous un ciel chagrin, les fanfares étranges passent comme un soupir étouffé de verre. Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, ces extases, ces cris, ces pleurs, ces tédéums sont un écho redit par mille labyrinthes, c'est pour les cœurs mortels un divin opium. C'est un cri répété par mille sentinelles, un ordre renvoyé par mille porte-voix, c'est un phare allumé sur mille citadelles, un appel de chasseurs perdu dans les grands bois.
C'était une lecture par Jean-Louis Barrault. Dans le célèbre poème, le plus clairement dédié à la musique, puisqu'il en porte le titre, ce n'est pas par hasard que Baudelaire a inventé une forme de sonnet originale. L'alternance des alexandrins et des pentasyllabes est calquée sur le rythme régulier du ressac. Et je me suis efforcé d'en apporter une sorte de démonstration. Mais les arythmies de l'océan sont, avec la même imagination quasi musicale, suggérées par des alexandrins désarticulés, avec une découpe insolite. Pardon pour ce faux départ. Il s'agit d'un autre acteur, Jean Marchat, pour lire cet extrait. Et dans un poème comme « Rêve parisien », c'est comme une étrange inversion des valeurs qui évoque un monde minéral brillant et silencieux comme une sorte de musique hors du temps. Nul astre d'ailleurs, nul vestige de soleil même au bas du ciel pour illuminer ces prodiges qui brillaient d'un feu personnel. Et sur ces mouvantes merveilles planaient terrible nouveauté, tout pour l'œil, rien pour les oreilles, un silence d'éternité. J'aimerais souligner une autre correspondance, la plus profonde peut-être, que Baudelaire a particulièrement accomplie, non plus entre les cinq sens, mais entre la musique et la poésie, même lorsque celle-ci n'évoque expressément aucune sensation sonore. La rime n'est pas le seul témoin conventionnel d'une présence musicale dans les vers. On sait que le langage énumère et que la musique répète. Or, Baudelaire a su utiliser la répétition non pas comme un artifice d'éloquence, mais comme une signature musicale, celle du refrain. C'est très net dans plusieurs de ses grands poèmes comme « Réversibilité » que voici dit par Alain Cuny.
Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse, la honte, les remords, les sanglots, les ennuis et les vagues terreurs de ces affreuses nuits qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse. Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse. Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine, les poings crispés dans l'ombre et les larmes de fièvre, quand la vengeance bat son infernal rappel et de vos facultés se fait le capitaine. Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine. Ange plein de santé, connaissez-vous les fièvres qui, le long des grands murs de l'hospice, blafardent comme des exilés sans fond d'un pied traînard, cherchant le soleil rare et remuant les lèvres. Ange plein de santé, connaissez-vous les fièvres. Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides et la peur de vieillir et ce hideux tournant de lire la secrète horreur du dévouement dans des yeux où longtemps durent nos yeux avides. Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides. Ange plein de bonheur, de joie et de lumière, David mourant aurait demandé la santé aux émanations de ton corps enchanté. Mais de toi je m'implore, ange de tes prières. Ange plein de bonheur, de joie et de lumière.
Ce principe des anaphores variées et des refrains est un principe non rhétorique ici, mais purement musical. Et on peut en dire autant de beaucoup d'autres passages, comme dans « Maestà et Erabunda » que Daniel Mesguich va vous lire.
Mais l'air paradis des amours enfantines, les courses de chansons, les baisers, les bouquets, les violons vibrant derrière les collines, avec les brous de vin le soir dans les bosquets. Mais le vert paradis des amours enfantines, l'innocent paradis plein de plaisirs furtifs, est-il déjà plus loin que l'Inde et que la Chine? Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs et l'animer encore d'une voix argentine? L'innocent paradis plein de plaisirs.
Et c'est dans Harmonie du soir que l'usage du refrain atteint un raffinement suprême. On dit souvent que c'est un pantoume, mais contrairement au pantoun malais et leurs dérivés chez Hugo, Banville, Le Comte de Lille ou Asselineau, ce poème ne joue pas sur le parallélisme de deux imageries, mais essentiellement sur des reprises croisées. Baudelaire abandonne la rhétorique pour créer en quelque sorte une musique pure, que Pierre Blanchard va jouer pour nous.
Voici le nom de tambour vibrant sur sa tige. Chaque fleur s'évapore ainsi comme au sensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir. Valse mélancolique et le roux. Chaque fleur s'évapore ainsi comme son soir. le violon frémit comme un cœur qu'on afflige. Valse mélancolique et normaux de vertige. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige. Un cœur tendre qui aime mais en vaste et noir. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le soleil s'éloigne dans son sang qui se fige. Un cœur tendre qui lève le néant vaste et noir. Du passé lumineux recueille tout vestige. Le soleil s'éloigne dans son sang qui se fige.
La prédilection qu'a Baudelaire de placer à la rime souvent de longs mots sonores de quatre syllabes ou plus participe de la même fascination pour ce qui, dans la poésie, reste proche de la musique. Sans abandonner le sens, mais en le faisant passer dans l'inconscient du lecteur, c'est-à-dire de l'auditeur, grâce à un effet que je comparerais à une réverbération. Voici quelques-unes de ces rimes, dont peu importe le sens à la limite. Tamarinier, appesanti, voluptueux, amoureusement, indifférence, décomposée, enchanteresse, incuriosité, majestueuse. Les dernières années de Baudelaire, marquées par l'aggravation de la maladie qui devait le tuer, sont restés à jamais marqués par le bouleversement que Wagner a opéré sur sa sensibilité. Au cours de l'épisode lamentable du voyage raté en Belgique, dans les notes haineuses pour son livre inachevé, Baudelaire écrit une incroyable anecdote où Wagner est impliqué et où se manifeste violemment son goût de la provocation et de l'humour très noir. À tous ceux qui me demandaient pourquoi je restais si longtemps en Belgique, je répondais confidentiellement que j'étais mouchard et on me croyait. À d'autres que je m'étais exilé de France parce que j'y avais commis des délits d'une nature inexprimable, mais que j'espérais bien que grâce à l'épouvantable corruption du régime français, je serais bientôt amnistié. Et on me croyait. Exaspéré, j'ai déclaré maintenant que j'étais non seulement meurtrier mais pédéraste. Cette révélation a amené un résultat tout à fait inattendu. Les musiciens belges en ont conclu que M. Richard Wagner était pédéraste. À son rapatriement de Belgique, Baudelaire, aphasique mais lucide, est interné chez le docteur Duval, où seule la musique de Wagner que vient lui jouer au piano Mme Paul Meurice lui arrache un sourire. Lorsqu'à 46 ans, il meurt le 31 août 1867, il n'a pas su que Barbara, le musicien qui avait peut-être été son meilleur conseiller musical et son premier vrai lecteur, fou de misère et désespéré de la mort brutale de sa femme et de sa fille, s'était suicidé 10 mois plus tôt en se défenestrant d'une maison de santé où il avait dû lui aussi être interné. Il n'a pas pu non plus voir publier en 1868 son recueil « L'art romantique » au cœur duquel est inséré le grand article sur Wagner. Il est temps maintenant pour moi de conclure en suggérant, pour mieux justifier le titre que j'ai proposé pour cet exposé, qu'on peut sans doute reconnaître chez Baudelaire le profil d'un mélomane exceptionnel et prophétique. 2 ans seulement après sa disparition, Gautier reconnaissait déjà dans le journal officiel du 12 avril 1869, que pour Wagner, son temps est arrivé et la musique de l'avenir est bien près d'être la musique du présent.
Il faut vraiment remercier, je crois, notre confrère François-Bernard Mache pour le spectacle total qu'il vient de nous offrir. ces fusées qui partaient en tous sens, qui nous ont donné envie de découvrir Charles Barbara, de nous replonger dans Gambara ou dans Massimil Adoni, et puis le moment où François-Bernard Mache nous a fait écouter la prière d'une vierge dans ce restera pour moi inoubliable. Est-ce qu'il y a des questions sur ces... Il est 7 heures, il est peut-être temps de... Mais peut-être qu'il y a quelques questions qui permettrait de prolonger un peu cette réflexion. Que de l'admiration, dit notre secrétaire perpétuel Laurent Petit-Girard, qui évidemment traduit notre sentiment à tous. Peut-être le professeur Pierre Brunel, que j'aperçois au fond, notre confrère des sciences morales, qui a édité Gambara et qui connaît ses textes très bien aussi. Non, Pierre. Alors, il faut terminer cette journée en remerciant évidemment. Oui,
poser une question à mon voisin qui m'a fasciné par la profondeur de son analyse de la grande métaphore du temps dans l'art qui, en principe, ne le définit pas. Mais alors, ce qui m'a semblé, c'est que Baudelaire et vous-même analysiez surtout le temps du point de vue du créateur. Et il m'a semblé que celui du spectateur, de l'amateur, n'était pas pris en compte. Est-ce que je me trompe ?
Oui, merci. En fait, dans le texte si je me souviens bien, dans le texte de 46 sur la couleur, en fait, il dit que la couleur est une musique parce qu'elle attend une résolution, et cette résolution, donc problème et résolution, donc une perspective temporelle, et cette résolution, c'est l'effet produit sur le spectateur. Et là, on peut peut-être aussi le mettre en évidence aussi par l'importance que Delacroix lui-même accordait à la contemplation du tableau et à la question, déjà, du mélange optique des couleurs. Il y a le mélange pigmentaire sur la toile, réalisé par le peintre, et le mélange optique, c'est-à-dire en fait deux couleurs juxtaposées qui vont en fait se mélanger, non pas sur la toile, mais dans l'œil du spectateur. Et en fait, Baudelaire travaille vraiment sur cette question-là, et il dit la couleur, c'est une mélodie qui attend une résolution, et cette résolution, c'est l'effet.
Alors ça, c'est très intéressant, parce que résolution est un terme technique en harmonie, c'est la résolution d'une dissonance. Ouais. Et est-ce que, au cours des conversations avec Delacroix n'y aurait pas fait part de cet aspect assez technique ?
Alors, il s'est en effet entretenu avec Delacroix, alors beaucoup moins, en fait, que ce qu'il prétend. Il prétend avoir eu beaucoup de conversations. En fait, c'est pas tant. Elles ne sont pas aussi nombreuses qu'il prétend. Il est possible, en effet, que ça vienne de cela. Après, il y a cette comparaison aussi dans les phares, mais qu'il reprend aussi, je crois que c'est dans Salon 59, sur le texte, le quatrain, sur la question de Delacroix et de la musique de Weber. Il y a en fait cette analogie-là qui est placée, mais qui est vraiment autour de la question de la couleur et sûrement en fait autour peut-être aussi de la pensée du chromatisme, de la gamme chromatique, que ce soit à la fois en musique et en peinture, je ne sais pas.
Mais c'est une question intéressante, d'autant plus que justement on a accusé Wagner d'exagérer l'usage du chromatisme. Mais il avait perdu son sens étymologique, le mot. En tout cas, ça nous entraînerait très loin pour essayer de voir dans quelle mesure le chromatisme pour un peintre a un sens vraiment analogue au chromatisme pour un musicien. En tout cas, c'était très intéressant de vouloir, contre la perception ordinaire, incorporer à la création picturale le temps. Parce que ce qui domine chez le béotien que je suis, en l'occurrence, c'est lorsqu'on voit un tableau, on voit tout d'un seul coup. Maintenant, après, le regard a ses parcours, et il est possible que le peintre ait programmé le parcours dominant du regard. Mais ça n'est pas la même chose que ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit, c'est un peu ce que Georges Mathieu disait, que la vitesse de l'idée entraîne la vitesse du geste. Mmh. Ça, c'est assez audacieux. Je ne sais pas si...
À mon avis, c'est partout présent chez Baudelaire, et c'est toujours à la fois implicite, bon, parfois explicite, mais il me semble que c'est vraiment ça, cette question de rapporter cette question du temps. Parce qu'en fait, la question de l'espace, c'est une peinture exclusivement spatiale. Justement, elle elle est immobile, en fait, elle prétend à la question de l'éternité. Enfin, je crois qu'il y a vraiment cette analogie hein, entre l'espace, l'éternité d'un côté, et puis le temps et le fugitif ou l'éphémère. Et vraiment, on voit bien que Baudelaire opère un déplacement, hein, ce qui peut aussi nous conduire, en effet, vers l'annonce d'un système pré-impressionniste avec cette question de la fugitivité des aspects.
Mais c'est très évident que Delacroix a un art de montrer, de suggérer des mouvements. On ne peut pas interpréter la figure en général sans penser quel mouvement elle est en train de faire. Mais lorsqu'il parle dans le poème des phares de Delacroix, il ne parle pas de ça, il ne parle que d'analogies musicales.
Oui. Alors après, vous parliez aussi de la question du spectateur. Oui. Baudelaire l'intègre vraiment puisqu'il dit en fait que Delacroix est le peintre le plus suggestif. Donc dès qu'on parle de suggestivité, en fait, on travaille sur la question de l'imagination. Et ça, c'est vraiment une notion centrale hein, dans le système baudelairien. C'est à la fois l'imagination du peintre, hein, mais c'est surtout l'imagination du spectateur. Et parmi ces spectateurs, un qui est privilégié, c'est l'importance de l'imagination dans le travail du critique d'art. Parce que Baudelaire dit bien qu'en fait, l'imagination est une faculté critique, hein, au sens de la faculté du critique. Et en fait, on peut aussi travailler, considérer que Baudelaire, intègre vraiment cette place du spectateur par le seul fait qu'il écrive autant sur Delacroix. Hein, c'est justement ça. Après, il y a un autre texte vraiment intéressant où il est fasciné par un peintre qui raconte une anecdote. Hein, donc, un peintre, Balzac s'était arrêté devant un tableau. Je ne sais plus lequel.
Le chef-d'œuvre inconnu.
Non, en fait, il raconte une histoire où Balzac est au salon, voit un tableau, il se dit mais qu'est-ce qui se passe dans cette petite maison, ces paysans doivent avoir
des échéances à payer.
Oui. Voilà. Et là, il est fasciné. En fait, il dit quel grand peintre qui a su stimuler l'imagination de Balzac.
Ouais. Oui, mais alors ça, ça ressemble au kitsch.
Il y a une part d'ironie dans tout ça.
Il y a une part d'ironie aussi, mais la référence à Balzac dans la critique d'art, elle est constante. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir justement la question de la suggestivité.
Oui.
Il y aurait encore 1000 chemins qu'on n'a pas pu explorer aujourd'hui. On n'a pas parlé de sculpture, par exemple. On a épargné nos confrères de la section de sculpture en n'ouvrant pas pourquoi la sculpture est ennuyeuse, la sculpture est un art de Caraïbes, tout ça. On l'a laissé de côté. Donc il y aura d'autres rendez-vous. Je pense qu'après le succès de la journée Marcel Proust et les arts, Baudelaire et les arts a été, grâce à vous tous, un grand moment. Les actes seront publiés. Et puis il y aura évidemment, je le crois, monsieur le secrétaire perpétuel, un rendez-vous qui suivra. Hein. On continuera ces grandes journées de l'Académie des Beaux-Arts. Merci à tous.